Je vous invite à lire avec moi Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Que la parole du Seigneur fasse son chemin dans nos cœurs.
Je ne sais pas si c'est parce que je suis là devant et vous me regardez. Je ne sais pas si c'est le bilan de cette année 2014 ou les perspectives de l'année nouvelle, mais je vous sens très sérieux ce matin. Le sourire, c'est aussi l'expression de notre rapport avec le Seigneur. J'ai le privilège de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Mais j'aurai le privilège d'être avec toutes les églises de notre union, du territoire français, du territoire belge et luxembourgeois, le 10 janvier, pour un sabbat spécial, avec mes trois collègues, présidents des fédérations qui composent notre union. Les nouvelles technologies nous donnent ce privilège et Richard nous a prêté main forte pour réaliser ça. Et au travers de streaming par Internet, on aura la possibilité de rejoindre toutes les églises de notre union dans un sabbat de culte. Mais ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur un texte de l'Ancien Testament, un texte que pour moi, c'est extraordinaire. Quand vous me regardez aujourd'hui, cela peut vous sembler incroyable, mais ceux qui me connaissent de plus près savent que cela fait quelques bonnes années, je faisais de l'escalade, et j'avais ça comme un plaisir étonnant. Je l'ai pratiqué au Portugal, en Espagne, et même ici en France, et pas seulement au Salève, durant mes années d'études. Mais cette activité, en plus de me détendre, elle m'apportait une certaine tranquillité, une certaine paix. Parce que j'avais toujours cette sensation de monter. Des fois, quand on se trouvait déjà au sommet de la montagne et on voyait même les nuages qui étaient bien plus bas que chez nous, c'était un moment extraordinaire. Mais d'un autre côté, ce moment de grimpe me permettait de voir aussi l'image de tous les défis que nous avons tous les jours dans notre vie. Je me rappelle d'un jour à Collonges de recevoir une convocation pour un entretien avec le directeur financier. Normalement, ce n'était pas une bonne chose. Et au fait, ce n'était pas vraiment une bonne chose. Je venais juste de commencer et je reçois en main propre une lettre où il me dit « Si jusqu'à la fin du trimestre tu ne payes pas ce que tu dois, tu ne pourras pas t'inscrire pour le trimestre suivant. » Je me sentais tellement frustré que j'ai pris mon équipement et j'ai monté au Salève pour grimper. Avec ma petite Bible, à l'époque je pouvais la lire, je l'ai toujours, mais j'arrive plus à lire parce qu'on dirait que les lettres se sont raccourcies. Mais la vérité, c'est que là, je priais au Seigneur et je lui disais, « Seigneur, moi j'ai mis ma vie devant toi, pour toi, et puis d'un coup, je vois tout qui s'ébranle et qui tombe de tous les côtés. Donne-moi une solution. » Et c'est vrai que cette journée même, moi, je demandais de l'argent au Seigneur et il m'a donné du travail, mais c'était sa solution. Et quand on prend les risques avec Dieu, c'est comme ça. Un des livres que je lisais le plus souvent à l'époque. C'est un livre qui a un titre incroyable, La conquête de l'inutile. Pourquoi je vous parle de montagne? Parce que nous sommes à un moment de l'existence humaine où on parle beaucoup plus de crises, de problèmes, de montagnes, de difficultés que des œuvres de victoire et d'espérance. Combien de montagnes nous avons eues durant cette année 2014? Combien nous avons eu à vaincre? À un moment ou l'autre, les montagnes devront être affrontées, elles devront être vaincues, affranchies. La société, elle aussi, nous présente des montagnes qui sont collectives. Mais c'est aussi les défis personnels. Nous avons des sommets si hauts et si durs qui deviennent bien souvent insurmontables, avant même de commencer. Des montagnes qui sont physiques, des montagnes émotionnelles, sociales, et je dirais même des sommets spirituels. C'est là où je trouve la raison de regarder ensemble, ce matin, les leçons qui nous enseigne la montagne. Voici une histoire de l'Ancien Testament, celle d'une montagne qui a été transposée, vaincue, une histoire d'espoir et de courage. Soit tu montes, soit tu descends. Mais Dieu, il affirme, il te faut monter, il te faut aller de l'avant. C'est pour ça qu'avant toute chose, j'aimerais partager avec vous un texte plein de certitudes. Parce que si votre mémoire ou attention ne vous permet pas de suivre ou de retenir tout le reste, au moins, retenez ce verset. Josué, chapitre 1, verset 9. « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Je me demande si ce matin nous avons ici avec nous quelqu'un qui est, disons, 85 ans. S'il y a quelqu'un qui a 85 ans parmi nous, ça sert d'exemple pour l'épisode que nous allons voir. Juste pour le plaisir, qu'en pensez-vous, 85 ans, c'est quoi? C'est beaucoup? C'est pas assez? L'extraordinaire, c'est pour ceux qui y arrivent, c'est pas beaucoup parce que tout le reste est déjà passé. Mais pour les jeunes, oui, c'est beaucoup, on voit très loin. Pour les jeunes comme moi, 85 ans, c'est bien éloigné. Mais cette histoire que nous allons voir ce matin, c'est d'un homme qui avait 85 ans. En plus, il avait un nom un peu bizarre parce qu'on l'appelait le chien. Ce n'est pas flatteur comme nom, traiter quelqu'un ainsi. Même si pour les artistes de notre temps, et en anglais, ça donne un peu de style. Malgré cela, il reste un des plus grands héros de l'Ancien Testament. En outre, il est âgé de 85 ans dans l'histoire que nous lisons dans le sixième livre de la Bible, le livre de Josué, au chapitre 14 et à partir du verset 6. Et je vous demande de garder ce chapitre parce qu'il va nous accompagner tout le long de notre réflexion. Josué, chapitre 14, verset 6. Un jour, des gens de la tribu de Juda viennent trouver Josué au Gilgal. Caleb, fils d'Yéphouné, du clan de Kenaz, lui dit « À Kadesh Barnéa, tu t'en souviens? Le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme de Dieu. » On va juste prendre un peu de temps ici. Nous devons comprendre le contexte. pour bien saisir ce qui se passe. Au cours des 5 dernières années, les enfants d'Israël ont conquis le petit bout de terre promise. Cela faisait 5 ans qu'ils avaient pris possession de la première ville. Vous vous rappelez, Jéricho. C'est quand même drôle que jusque à nos jours encore, on chante cette victoire, même dans les cantiques des enfants. On espérerait qu'à partir de la victoire à Jéricho, tout se découlerait tranquillement, victoire après victoire. Mais ça n'a pas été comme ça. Ça s'est plutôt déroulé ainsi. Victoire, victoire, défaite. Et quelle grande défaite. Victoire, victoire, victoire. Il a eu toute une autre histoire, une dure leçon qu'ils ont dû apprendre au milieu de cette défaite. Mais l'histoire nous dit qu'il s'était déjà écoulé 5 ans depuis le début de la conquête, étape par étape. Toute Canaan a été conquise et était maintenant le point de devenir la terre promise. C'est à ce moment-là que les enfants de Juda s'approchent, comme il est dit au verset 6 que nous venons de dire. Certains érudites pensent que Caleb, le Kénésien, était le fils de Kenaz, le petit-fils d'Ésaü. Alors, si les enfants d'Israël étaient des descendants de Jacob, il était probablement un cousin éloigné de Moïse. Ceux qui ont fait partie de cette foule énorme, très variée, qui a pu vivre l'expérience de l'Exode, ce grand voyage depuis l'Égypte. C'est énorme. Il a fait partie de cette foule. Il est devenu un des croyants radicaux qui ont suivi le Seigneur. Et au moment précis du verset 6 du chapitre 14, Caleb, dans sa conversation avec Josué, il va utiliser une espèce de code pour ces deux hommes. Il lui dit « Kadesh Barnea ». Tu te rappelles ? Kadesh Barnea, tu te rappelles le moment où le Seigneur nous a parlé ? Pensez-vous que c'était le plan de Dieu qui s'attarde 40 ans pour conquérir ce bout de terre ? Que le Seigneur n'avait pas de condition de pouvoir pour le conquérir bien plus rapidement ? Bien sûr que non. Mais rappelez-vous de l'histoire des 12 espions qui n'ont vu que des barrières, des difficultés, des géants, des montagnes. Conquérir cette terre, c'est impossible. Après tout, ils n'étaient même pas des soldats. Jamais nous pourrons conquérir cette terre. Mais entre les 12, il y en avait 2 qui se lèvent pour défendre une position complètement différente. À ce moment-là, 2, et Dieu fait une promesse. De votre génération et de celle qui vous précède, il n'y a que vous 2 qui rentrerez dans la terre promise. Caleb rappelle à ce moment-là à Josué, Kadesh Barnea, tu te rappelles, parmi tout le peuple, nous sommes les seuls qui restons. Seulement nous 2, nous sommes encore en vie. Reprenons la lecture du texte à partir du verset 7. J'avais 40 ans quand Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadesh Barnea pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revenant, je lui ai raconté fidèlement ce que j'avais vu. Mes frères, qui étaient venus avec moi, décourager le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Ce jour-là, Moïse a fait ce serment. Je jure que toi et tes enfants, vous recevrez en partage pour toujours la région où tu es allé. En effet, tu as suivi le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse. J'ai maintenant 85 ans. Pourtant, j'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé en Canaan. Je suis aussi fort qu'avant pour faire la guerre au pour-tout autre. Je suis aussi fort qu'avant pour faire la guerre au pour-tout autre activité. Maintenant donc, donne-moi en partage la région montagneuse, cette montagne que le Seigneur m'a promise à ce moment-là. Tu as appris alors que les Anakites vivent dans de grandes villes protégées par des murs de défense. Si le Seigneur est avec moi, je les prendrai comme le Seigneur l'a annoncé. Caleb était à ce moment-là la deuxième personne la plus âgée de la communauté, 85 ans. Josué, il était un peu plus âgé que lui, mais tous les autres de leur âge n'étaient que des petits monticules, des tombes dans le chemin du désert qui a duré durant 40 ans. Les autres de leur âge ne sont plus là pour être témoins, pour recevoir la promesse, pour recevoir le résultat de ce que Dieu leur avait promis. Mais Caleb était sûr, nous dit le texte, il était sûr que c'est la volonté du Seigneur. Il était sûr que c'est le Seigneur qui l'avait gardé en vie. Pas seulement il rappelle la promesse à Josué, Kadès Barnéa, mais il affirme au verset 10 en toute conscience. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a fait quoi ? M'a gardé en vie selon sa promesse. Le commentaire sur le livre de Josué qui a été écrit par Otto Christiansen, il dit « La récompense d'une vie vertueuse dans la jeunesse, donnée par la loi de la nature, est généralement une forte santé et une certaine longévité. » Mais la fidélité envers Dieu, apparemment, a préservé Caleb des péchés de ses frères israélites. Ne s'est pas donné à l'appétit comme les autres le faisaient, ou perdu des heures de sommeil, ou se reposer la nuit avec le poids d'une conscience coupable. Sa vie, sobre, lui a apporté des bénéfices dans cette vie. Et maintenant, il se présente devant Josué avec une force enchangée à un âge où tous les autres avaient péri. Permettez-moi de dire quelque chose, peut-être aux plus jeunes ici, faire une petite parenthèse. Ne croyez pas pour un instant que dans une société comme la nôtre, qui appelle tous les jours à vivre comme tu veux, de la façon que tu veux, sans limite, sans option, ici et maintenant, comme s'il n'avait pas de conséquences. Je l'affirme pleinement et en pleine conscience, ça ne vaut pas la peine. Ce que l'homme sème aujourd'hui, il finira pour le moissonner plus tard. N'ayez pas honte. Aucune gêne de vivre vertueusement dans la justice, de façon saine, fidèlement au Seigneur. Oui, la société vous appelle à vivre de façon différente, mais n'est-ce pas aujourd'hui vivre en fidélité au Seigneur la façon la plus différente qu'on peut vivre en société ? La justice dont le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à vivre, à faire bannière dans ta vie, n'est-elle pas la façon radicale de vivre? Si vous viviez de cette façon, avec ce courage, et si en attendant Jésus ne vient pas, votre vie peut être prolongée et en meilleure condition. Mais mieux que ça, tu ne seras jamais seul. Commence dès maintenant. prendre les décisions qui doivent être prises pour le Seigneur, pour ta vie. Regarde Caleb. Reprenons le texte au verset 10. Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse. J'ai maintenant, combien ? 85 ans. Pourtant, j'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé en Canaan. Je suis aussi fort qu'avant pour faire la guerre et pour toute autre activité. Maintenant, donne-moi cette montagne. J'ai 85 ans, mais plein de mes forces. Donne-moi cette montagne. Mémorisez bien ces mots. Cette audace, ce courage d'un vieillard de 85 ans. Ne l'oubliez pas. Donne-moi cette montagne. Je veux cette montagne. C'est la demande d'un octogénaire. L'audace. Donnez-moi cette région montagneuse. Que pouvons-nous apprendre ici aujourd'hui? Je vous présente quatre idées, quatre leçons. Et en fait, la dernière, c'est la clé pour comprendre le tout et qui unit tout le reste. Les trois autres n'ont que de sens dans la dernière. Pour moi, la première leçon que nous retenons ici, c'est ne pas avoir peur d'être parmi la minorité, ou comme nous aimons le dire, le reste. Même si la minorité n'est pas celle qui gagne à la fin de la journée, cela vaut la peine de rester fidèle et d'y faire partie de ceux qui confient le Seigneur. Mes amis, je sais parfaitement bien qu'il existe en chacun de nous une part d'adolescent qui veut, comme les loups, faire partie de la meute, du confort de la foule. Nous voulons être intégrés dans le groupe. Je sais aussi que la pression du groupe, elle est trop souvent bien grande. Faire partie de la foule, de la majorité. Mais la première leçon de ce texte, de cette histoire, est celle-ci. N'ayez pas peur de faire partie de la minorité. 12 espions quittent le camp d'Israël. 10 retournent tous d'accord avec la notion de l'impossible. Les géants, ils sont trop grands. Les murs insurmontables. Quand la foule se met à pleurer et à se lamenter devant les difficultés, Josué et Caleb. Uniquement 2, si cela vous est passé inaperçu. 2 sur 12. Ils font un pas en avant. Ils n'ont pas peur. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, impossible? D'où avez-vous tiré cette idée? Oui, les murs sont grands. Oui, c'est vrai. Ils sont plus grands que nous. Oui, c'est vrai. Ils sont des soldats, nous ne le sommes pas. Oui, c'est vrai. Mais n'êtes-vous pas en train d'oublier quelque chose de très important? Qui est-ce qui vous dirige? Bien sûr que nous pouvons vaincre. Il est évident que cela peut être fait, pas dans nos forces, mais dans celui qui nous envoie. Seulement, parmi les 12, 2, devant tout le peuple, ont osé, ont défié tous les autres en restant fidèles. Avec la puissance de notre Dieu, tout peut être accompli. Quel que soit le coût à payer, nous devons être prêts à faire partie de cette minorité. Permettez-moi de partager avec vous quelques mots sages, centenaires, mais qui parlent de Caleb. C'est quand les incrédules jettent le mépris sur la parole de Dieu que des fidèles Caleb sont suscités de nos jours. C'est à ce moment-là qui demeurent fermes à leur poste, sans ostentation, sans se laisser intimider par l'opprobre. les espions incrédules étaient prêts à supprimer Caleb. Les pierres qu'il voyait dans les mains de ceux qu'il avait donné en faux rapport ne purent l'empêcher de délivrer son message. Le même esprit sera manifesté aujourd'hui par ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. L'histoire de Caleb, c'est comme un post-it. Vous vous rappelez ces petits papiers jaunes qu'on colle pour nous rappeler les choses que nous ne devons pas oublier. Alors n'oublie pas que, quelles que soient les circonstances, demeure ferme, enraciné, même si tu es la minorité. Deuxième leçon, avec le temps, avec l'âge, sois plus audacieux. Au fur et à mesure que tu prends de l'âge, apprends à faire preuve de plus d'audace. C'est vrai, cela a été difficile. Au fur et à mesure que mes cheveux, ma barbe commencent à blanchir, je remarque combien j'ai eu tort sur tant de choses. Combien il y avait de choses sur lesquelles je me trompais. Il n'y a rien, je me disais, il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Je peux faire tout ce que je veux. Je pensais, quand je serai plus âgé, là je pourrai dormir davantage, faire la grasse matinée. Mais au contraire, on dirait que c'est un complot parce que je me lève toujours avec les poules. J'ai connu quelqu'un que tout le monde appelait Pépé Chapiot. Quelqu'un qui m'inspirait. Pasteur, retraité, 91 ans. Grand, très mince, courbé par sa minceur. Sec comme un bâton. Mais toujours, à 91 ans, il conduisait sa belle déesse de plus de 40 ans, sa compagne, une voiture remarquable, mais qu'avec lui, il n'y avait que deux vitesses, arrêtée et à fond. Et je peux vous dire que quand il m'invitait pour que j'aille travailler à des endroits qu'il me trouvait, et que c'est lui qui m'amenait dans sa DS, il contribuait pour augmenter ma vie de prière. Parce que sa voiture traversait la frontière de Suisse à fond, et les gendarmes, ils étaient tellement habitués qu'ils s'écartaient. Aujourd'hui encore, je garde avec un sens de trésor un livre du pasteur Alfred Vaucher. J'ai eu le privilège de le rencontrer personnellement. Ce livre s'appelle « L'histoire du salut ». Le jour de ses 100 ans, il a provoqué une petite frayeur à tout le monde car il est parti monter au Salève tout seul et il voulait être tout seul. Voilà. Devenir plus âgé ne signifie pas de s'installer et de s'affaiblir. Encore moins au niveau spirituel, au niveau éthique, au niveau moral. Nous devons plutôt devenir plus audacieux. Ce fut le cas de Caleb. En fait, il était de même pour Abraham, pour Sarah. Au début, ils n'étaient rien comparé à ce qu'ils ont devenu. Ils sont devenus avec l'âge. Pouvons citer également Moïse, Ruth, Jean, Pierre. Ou même lorsque nous arrivons à l'apôtre Paul, il est sur le point d'être exécuté et il dit péremptoirement en 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. C'est pour cela que je souffre maintenant, mais j'en ai pas honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'en suis sûr. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Indépendamment de ce qui peut nous arriver dans la vie, dans cette nouvelle année qui est là, ayons l'audace de rester fidèles au Seigneur. Ne me dites pas « ce n'est pas pour moi ». Je suis trop jeune pour qu'on me parle ainsi. Depuis le jour où nous sommes nés, nous commençons à vieillir. Aujourd'hui, tout comme moi, vous êtes un jour plus vieux qu'hier. Tout le monde est concerné. Regardez cette promesse extraordinaire. Seulement dans deux versets du livre d'Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4. Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4. Écoutez-moi, gens d'Israël, vous, le reste du peuple de Jacob, j'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Je vous ai porté depuis que vous êtes venus au monde. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous l'ai fait. C'est moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous et je vous sauverai. Extraordinaire. Jusqu'aux cheveux gris. On pourrait dire pour d'autres jusqu'à que tu perdes les cheveux complètement. C'est même mignon en plus. Même si tu as tous tes cheveux blancs, aucun, je te porterai dans mes bras, toujours comme depuis le ventre de ta mère. Je vais te sauver tous les jours jusqu'à la fin. C'est un Dieu extraordinaire, un Dieu génial que nous avons. Leçon 3. Demande à Dieu ta montagne. Nous devons être capables de prier de cette façon, de changer le paradigme de nos prières. Nous avons tous, pour grandir, des montagnes à franchir, à différents âges, à différents endroits, différents genres, différentes montagnes. Mais nous avons tous des montagnes à franchir. Montagne académique, montagne relationnelle, la famille, l'amour, même nos voisins. Montagnes financières, il paraît que celles-là sont à la mode. Voilà, peu importe la montagne, car celles-ci, nous les aurons toujours. Mais l'essentiel, est-ce que nous devons demander à Dieu pour nous les donner et pour les franchir? Dans son histoire de la conquête de la face nord de l'Eiger, une montagne suisse tellement défiante pour les alpinistes qu'il appelle le Ogre, Heinrich Harel, il affirme. Devant était le seul chemin possible. Nous avions déjà dépassé le point de retour. Le passé était déjà derrière. Tout ce qui comptait désormais, c'était l'avenir. Et l'avenir reposait sur la paroi de ce sommet glacé. Maintenant, je crois que personne ne peut rassembler toutes ses forces et sa volonté, toute son énergie pour cette dernière étape désespérée, jusqu'à qu'il soit pleinement convaincu que le dernier pont est déjà derrière lui et qu'il n'existe pas un autre chemin par où aller sauf marcher vers le haut. Il y a un moment dans la vie où nous devons couper la corde avec le passé, simplement aller de l'avant, parce qu'il n'y a plus de choix, c'est vers le haut. C'est la seule voie qui nous reste. Donne-moi, Seigneur, cette montagne qui m'intimide, a dit Caleb. C'est un changement de paradigme, un changement complet, de sorte que cette montagne qui est devant nous ne soit pas un obstacle, mais au contraire, elle soit vue comme le moyen par lequel Dieu nous donne la possibilité de montrer tout son pouvoir. C'est une énorme différence. C'est changer ton cadre mental face à la montagne. Devant la crise que je vis, Seigneur, donne-moi cette montagne, parce que c'est l'occasion idéale pour toi, pour que tu puisses démontrer ta puissance sur cette planète au travers moi. Donne-moi cette montagne. C'est ce que Caleb a fait. Rien n'avait changé. Depuis, c'était encore cette horrible montagne qui était là depuis 45 ans. mais parce que le Seigneur l'avait conservé jusqu'à ce jour-là, il savait aussi qu'il pouvait la franchir. J'aime vraiment la promesse que renferme 2 Chroniques au chapitre 16, le verset 9. 2 Chroniques 16, 9. Oui, le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Un cœur pleinement engagé à l'Éternel. Je vais t'aider. Je suis avec toi. C'est cette leçon qui donne la logique de cohérence à tout le reste. C'est pour cela que nous attendions. Suis le Seigneur fidèlement, de tout ton cœur. C'est intéressant que le mot hébreu ici apparaît et qui est traduit par fidèlement, apparaît 6 fois lié à Caleb. C'est lui qui détient le record dans tous les personnages bibliques de l'utilisation de ce mot. Seulement dans cette histoire, il apparaît 3 fois dans l'histoire que nous lisons aujourd'hui. Reprenons l'histoire, Josué 14, versets 13 et 14. Josué bénit Caleb, fils d'Iéphoné, et il lui donne la ville d'Hébron en partage. Cette ville appartient encore aujourd'hui aux gens de la famille de Caleb, fils d'Iéphoné, du camp de Kenaz, parce qu'il a suivi, qu'est-ce qu'il dit le texte maintenant ? Parce qu'il a suivi de tout son cœur le Seigneur, le Dieu d'Israël. Suis l'Éternel de tout ton cœur. Sois persévérant. Sois fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Permettez-moi de montrer cette notion avec une réflexion à l'envers. Qu'est-ce que cela veut dire suivre le Seigneur à demi-cœur? En ce moment, je fais la préparation au mariage de 2 jeunes couples. Ma femme est mariée à moi depuis plus de 25 ans. Imaginez que lors de la cérémonie, au moment où sont prononcés les vœux, que la fiancée se tourne, ou le fiancé se tourne vers la fiancée, lui dit « Je te donne à jamais la moitié de mon cœur ». Je pense que la première chose qu'elle demanderait, quelle moitié, la bonne ou la mauvaise? Je crois que moi, je ne pourrais pas officier une cérémonie dans une déclaration comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire, suivre le Seigneur de tout cœur? Otto Christiansen, que j'ai déjà mentionné ce matin, et j'aime beaucoup ça, il dit que le mot hébreu, traduit par tout le cœur, persévérance ou fidélité, donne l'idée d'un voyageur qui suit de si près, si étroitement près son guide, qu'il ne laisse pas de l'espace entre eux. C'est très intéressant. Nous n'avons pas de soleil de nos jours ici, mais imaginez que nous sommes en plein été, avec plein de soleil, et gardons cette image que je partage avec vous. Je marche avec mes sandales. Derrière moi, il y a quelqu'un qui vient tellement près qu'il est tout le temps en train de me marcher sur l'arrière de mes sandales. Parce qu'il n'y a pas l'espace entre nous deux. Derrière toi, il se trouve quelqu'un qui marche de si près, qui piétine tout le temps. La volonté qu'on aurait de dire, c'est « laisse-moi mes pantoufles ». Mais suivre l'Éternel de tout cœur, c'est ça. Rappelle-toi de tes sandales. Si près que tu marches presque avec ses pieds dans ses sandales à lui. Le terme hébreu employé ici dit que c'est aussi proche que ça. Il est possible de marcher ainsi, jour après jour, et tu as aujourd'hui cette possibilité. Notre sœur White, elle dit, c'est la foi de Caleb qui lui donne le courage. Suivre Jésus exige un cœur complètement converti du début à la fin. Et chaque jour, cette conversion se répète. N'importe l'âge, n'importe les montagnes que nous soyons capables de vivre en fidélité, dans la perspective d'un cœur plein, complet,